Le débat du jour. Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'est ce qu'on appelle revenir sur le terrain et reprendre la main. Après s'être consacré pendant de longues semaines aux questions internationales, Liban, Biélorussie, Haut-Karabakh ou encore Méditerranée orientale, Emmanuel Macron se retrouve confronté à des questions intérieures particulièrement pressantes et parfois dramatiques qui requièrent manifestement son intervention. Il y a évidemment la crise sanitaire et ses conséquences économiques, sociales et politiques dont nous allons largement parler, mais aussi les inondations dans le sud du pays ou encore le thème de la sécurité. Le retour en France d'Emmanuel Macron est-il convaincant ? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour en parler, trois invités sont avec nous aujourd'hui. Dans ce studio, nous recevons François-Xavier Bourmeau. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, grand reporter au service politique du Figaro et auteur du livre « Les coulisses d'une victoire ». Macron, l'invité surprise, c'est aux éditions de l'Archipel. Et également Olivier Roucan. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, constitutionnaliste, enseignant, chercheur associé au Centre d'études et de recherche de sciences administratives, le CERSA, et par téléphone, Emmanuel Rivière, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue et directeur général de l'Institut de sondage Kantar Public. On va évidemment commencer par revenir sur l'intervention télévisée d'hier soir, cet entretien d'une bonne quarantaine de minutes entièrement consacré à la crise sanitaire et à l'annonce du couvre-feu de 21h à 6h du matin dans toute l'Île-de-France et dans 8 métropoles. Qu'en avez-vous pensé, qu'en avez-vous retenu, François-Xavier Bourmeau ?
Ben c'est le retour d'Emmanuel Macron sur le terrain de la crise sanitaire. On voyait que depuis le remaniement de juillet, en gros, il essayait de se tenir un peu à l'écart de la gestion quotidienne de cette crise. Il avait délégué ça à Jean Castex et à Olivier Véran. Et il essayait de renouer avec le fil de son quinquennat. Il parlait beaucoup de réformes. Vous l'avez évoqué aussi tout à l'heure, il était beaucoup à l'étranger. Il essayait de renouer avec son agenda international parce que la fin du quinquennat arrive et qu'il faut préparer la suite et la campagne présidentielle. Or là, l'aggravation de l'épidémie l'a forcé à revenir. Vous voyez que la parole de Jean Castex n'imprimait pas beaucoup dans l'opinion publique. Celle d'Olivier Véran a un peu plus, mais ça avait sans doute moins de solennité que celle du président de la République. Et vu l'évolution de la crise sanitaire, il fallait qu'Emmanuel Macron reprenne la parole et donc annonce des mesures un peu fortes.
Olivier Roucan, le ton, la forme, une interview plutôt qu'une déclaration solennelle, comme il l'avait fait précédemment dans ses précédentes interventions sur la crise sanitaire. Pourquoi ce changement de forme, selon vous ?
Je pense qu'il y a déjà une différence de situation. Nous sommes à un moment où l'épidémie augmente, mais nous ne sommes pas dans la situation où nous étions au printemps. Donc,
nous ne sommes pas en guerre,
C'est ça. Je pense que la forme, la tonalité sont adaptées à la situation, dans tous les cas, à ce qu'on peut en percevoir d'après des indicateurs qui nous sont commentés régulièrement. Voilà, donc il y a en effet un ton assez ferme par endroit, mais nuancé, notamment assez compréhensif toujours vis-à-vis des jeunes. Et c'est un choix que fait le président de ce point de vue. Voilà ce que, pour commencer, je souligne.
Emmanuel Rivière, est-ce qu'on a déjà des retours de l'opinion sur cette intervention qui a été largement suivie, hein, 20 millions de téléspectateurs en cumulé ?
J'allais commencer par ça. Pour moi, c'est le premier indicateur, parce que il faut le mettre en regard d'ailleurs avec quelque chose qui est assez fascinant dans les enquêtes que nous conduisons en ce moment, qui est que les gens ont tendance à se désintéresser de la politique, à mettre tout un tas de sujets vraiment au second plan. Et là, ils étaient, nous étions d'ailleurs 21 millions à suivre le président de la République. Il fallait vraiment, je pense, qu'il s'exprime, parce que on est sorti d'une phase où on a cru, avec un soulagement peut-être un peu précipité, que c'était le début de la fin. Et bon, voilà, on est confronté à cette deuxième vague et la parole du président était attendue. Alors ensuite, les indicateurs de réaction, c'est intéressant parce qu'il y avait un sondage hier soir de mes confrères d'Aris Interactive montrant une majorité de gens ayant trouvé le président de la République convaincant. Et puis aujourd'hui, il est publié un autre sondage montrant qu'une majorité ne l'avait pas jugé convaincant. beaucoup de gens, je pense, peut-être avec beaucoup de bon sens, diraient, ben, décidément, les sondages, c'est n'importe quoi. Ce sera pas ma lecture. Je pense qu'il y a eu effectivement les deux temps, c'est-à-dire que le président de la République a fait une partition assez claire, parfois très très concrète, je pense qu'il était attendu sur des choses concrètes. Sur le moment, ça a pu donner le sentiment qu'on voyait bien où il allait, et puis on passe la nuit dessus, et puis on se réveille, et puis ce couvre-feu pose tellement de questions et tellement de questions non répondues, que là on se dit, mais finalement, est-ce que tout ça est bien maîtrisé?
Est-ce que François-Xavier Bourmeau, il devait, vous l'avez dit tout à l'heure, reprendre la main dans la gestion de la situation pour montrer justement que la situation était sous contrôle? C'était ça le but?
Oui, et puis surtout, il n'y a que la parole du président de la République qui a l'air d'imprimer. Donc c'était impossible d'échapper à cet exercice. Or, Emmanuel Macron, lui, s'en serait bien passé. Il voulait vraiment tourner la page de la crise du Covid et espérait pouvoir relancer son quinquennat, je vous le disais tout à l'heure, en abordant d'autres sujets. On l'a vu en septembre en déplacement à Clermont-Ferrand. Il essayait de parler d'égalité des chances. Il a fait son grand discours sur le séparatisme qui était attendu depuis très longtemps. Il a repris les déplacements à l'étranger aussi. Il a fait des gestes donc en direction de la droite, de la gauche.
Beaucoup de sujets régaliens, hein, en effet.
Beaucoup de régaliens parce qu'il fallait adresser des messages à la droite et aussi à la gauche. On est dans une période aussi où au mois de septembre, ce qu'on a vu, c'est commencer à apparaître les postulants pour l'élection présidentielle. Ça correspond aussi à cette période où il y a eu des tours de piste de chacun. Xavier Bertrand est revenu, François Baroin a fait savoir qu'il renonçait. Puis on voit comme ça qu'il y a des candidats qui commencent, des candidats potentiels, qui commencent à essayer d'aller chercher le président. Lui, il était plutôt parti pour s'engager dans cette phase-là. Seulement, voilà, la crise du Covid s'étant accélérée, les contaminations étant reparties fortement à la hausse, et puis on voit aussi avec une très forte inquiétude des Français. Ils ne pouvaient plus échapper à cet exercice, à une prise de parole. La forme est intéressante d'ailleurs parce que on voit aussi qu'il essayait de dédramatiser en intervenant sous forme d'entretien avec des journalistes et pas sous forme d'allocution officielle, sans doute pour ne pas donner le côté solennel qu'avaient eu ses interventions pendant le confinement où là il avait battu tous les records d'audience, notamment ce qu'il avait annoncé le confinement.
Olivier Roucan, il y a un jeu habituel, historique, constitutionnel, sur le couple exécutif entre le président de la République et le Premier ministre. Là, ce que nous disait François-Xavier Bourmeau, c'est que la parole du chef du gouvernement a du mal à être reçue, perçue par les Français. Comment ça se fait que le couple exécutif ne fonctionne pas bien comme ça?
Bon, on va en revenir au problème posé par le quinquennat, disons aussi, hein. C'est-à-dire qu'en effet, le couple dysfonctionne régulièrement et il y a à l'évidence un problème avec aujourd'hui le Premier ministre, mais même vis-à-vis, semble-t-il, de sa majorité, hein. C'est pas simplement par rapport à l'opinion, donc à s'imposer, à prendre toute sa place. Bon, il faut dire que le Premier ministre actuel est nommé depuis somme toute assez peu de temps, et qu'il y a l'ombre de son prédécesseur qui, à tort ou à raison, plane toujours parce que Édouard Philippe a réussi, vis-à-vis de l'opinion, à imposer son personnage. Donc, il y a un déséquilibre. Et puis, il y a un autre point, Emmanuel Rivière pourra peut-être le confirmer, je parle sous son autorité, c'est-à-dire que le couple exécutif baisse en termes de confiance et de popularité depuis quelques mois. Et second point, durablement, l'exécutif n'arrive pas à susciter une confiance suffisante dans cette gestion de la crise. Donc le président devait, entre guillemets, prendre la parole pour essayer de clarifier un peu le message sur la conduite des choses, parce qu'on voit quand même qu'une partie des Français doute singulièrement d'un certain nombre de points. Sur les masques, il y a eu la polémique d'emblée. Sur les tests, et ça c'est plus récent, l'opinion n'est pas convaincue. Et sur la communication, y compris les médecins, les spécialistes, épidémiologistes et autres, sur la communication, ils sont sévères avec le gouvernement.
Alors on va aller vers Emmanuel Rivière dans un instant, mais vous voulez réagir, François-Xavier Bourmeau, sur ce qui vient d'être dit, ajouter quelque chose.
Parce qu'il y a sans doute un malentendu qui s'est installé à propos de Jean Castex. C'était monsieur déconfinement. Sa nomination à Matignon devait marquer l'entrée dans l'ère de la relance, l'ère de la relance post-Covid. Or, Jean Castex, il se retrouve à être monsieur couvre-feu aujourd'hui. Monsieur gestion de l'épidémie, et ce rôle-là, il était occupé par Édouard Philippe. Et Édouard Philippe avait bâti sa popularité là-dessus. Il était installé et il avait su séduire les Français. Alors Jean Castex arrive, il a bien géré le déconfinement, il est nommé pour faire autre chose, et il se retrouve à faire la même chose qu'Édouard Philippe.
Il a mis du temps à se saisir du dossier. Hein. Pendant un moment, Jean Castex parlait les territoires, il parlait d'autres choses, et on se demandait où était la gestion de la Covid.
Il s'est fait rattraper par la crise du Covid contre son gré.
Emmanuel Rivière, j'ai presque envie de vous demander si les Français que vous interrogez chez Kantar Public connaissent Jean Castex.
Ben, ils le connaissent moins que ses prédécesseurs. C'est-à-dire qu'il est arrivé avec 21% des gens qui disaient ne pas pouvoir dire s'ils lui faisaient confiance ou pas, ce qui est le plus haut niveau de non-réponse à cette question depuis qu'on mesure les premiers ministres au moment de leur nomination. Il y avait Jean-Marc Ayrault qui était à peu près au même niveau. Et c'est vrai que c'est une des difficultés, c'est pas la seule. Hein. Et François-Xavier comme Olivier les ont cités. On n'est pas du tout dans l'agenda qui avait été prévu. Effectivement, Jean Castex, dans cette phase de déconfinement, il était là pour rassurer et compléter d'une certaine manière le président de la République sur l'ancrage territorial, local, proche des réalités. En fait, c'est ça qui vient incarner une espèce de proximité. Et c'est très difficile de faire ce mouvement qui consiste à dire, ben non, je suis en fait bien le monsieur qui s'occupe encore et prioritairement de la Covid. Et c'est pas le seul problème d'agenda qui a été provoqué par cette seconde vague, parce que ce moment-là, du mois de septembre, octobre, avec le projet de loi de finances, ça va être surtout le moment du plan de relance, qui fait partie des angoisses des Français, des interrogations, et c'est ça dont le gouvernement aurait espéré parler essentiellement de tout ce qu'il a mis en œuvre, avec plutôt un bon écho d'ailleurs dans l'opinion, pendant le confinement pour éviter des hémorragies en termes d'emploi, et à la rentrée pour accélérer la reprise et retrouver le chemin de l'activité. Or, voilà, il y a effectivement un hic, c'est que la deuxième vague, puisque c'est bien cela de ce dont il s'agit, prend davantage d'ampleur qu'anticipée, et là donc ça redevient la priorité. C'est un des sujets d'ailleurs qui rend l'équation très difficile, puisque les Français sont eux-mêmes tiraillés dans l'arbitrage entre leur vie sociale, leur liberté si on peut dire, et puis leur emploi, au-delà de l'activité économique et de la croissance, et leur emploi, et l'impératif de santé qui finit toujours quand même un petit peu par prendre le dessus. Et c'est d'ailleurs important, je ne sais pas si ça a été, ça, je ne peux pas dire si ça a été très très entendu, mais il a pris un rendez-vous hier, Emmanuel Macron. Il a dit en gros on est à 30 000 nouveaux cas, il faut qu'on passe à 5 000 et le couvre-feu va le permettre. C'est en fait ça qui va dire
5 000 le 1er décembre, c'est l'idée.
Voilà, c'est ça qui va dire s'il y a bonne gestion. Là, je pense qu'ils sont vraiment dans la tourmente, parce qu'il ne peut pas y avoir de grande satisfaction autour de leur action en ce moment. Ça va beaucoup se jouer si, à l'échéance prévue, on a bien atteint les objectifs fixés.
François-Xavier Bourmeau, il est gêné, Emmanuel Macron, par ce décrochage ou ce non-accrochage de l'image du Premier ministre dans l'opinion. J'ai lu, et c'était dans le Figaro aujourd'hui, qu'il n'avait pas beaucoup apprécié les commentaires anonymes, bien sûr, d'un député de la majorité qui avait été, c'est vrai, pas très amène avec Jean Castex.
Oui, puis ça fait un moment en fait qu'on commence à entendre au sein du gouvernement, de la majorité, que Jean Castex est critiqué. C'est quelqu'un qui n'est pas politique, qui a pas un parcours politique qui peut opposer à des personnalités comme Bruno Le Maire par exemple ou Gérald Darmanin. Il arrive là, il se heurte à des fortes personnalités politiques qui prennent l'espace à sa place. Il a du mal à s'imposer, il est critiqué au sein de la majorité. c'est pareil. Alors, au sein de la majorité, Édouard Philippe aussi avait connu les mêmes tourments. C'est aussi un problème qui relève de la composition de la majorité d'Emmanuel Macron. Mais ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, Jean Castex, il voit aussi, en même temps, le président de la République recevoir Édouard Philippe, demander à Édouard Philippe s'il voudrait pas s'occuper un peu de structurer cette majorité, alors que le chef de la majorité, d'un point de vue constitutionnel, c'est le Premier ministre. Donc on voit bien que Jean Castex a du mal à trouver sa place dans le regard des Français, dans l'appareil politique, et puis même au sein du gouvernement. Il y a guère qu'auprès d'Emmanuel Macron qu'il ait trouvé sa place.
Oui, c'est Emmanuel Macron, il le soutient, le Premier ministre, parce qu'il en a besoin, c'est ce que vous disiez, Olivier Rocan.
Oui, mais bon, encore une fois, le problème est posé depuis plusieurs mandats. Le Premier ministre dispose surtout de la confiance du président tant qu'il peut l'utiliser, c'est-à-dire tant qu'il n'est pas trop ou entreprenant ou, entre guillemets, grillé dans l'opinion. Mais le Premier ministre a du mal de plus en plus à être un chef de majorité sous le quinquennat, et c'est pas nouveau. Pensons au déboire avec les frondeurs, et François Fillon avait eu quelques problèmes aussi, et puis finalement François Fillon lui a eu plus de problèmes avec Nicolas Sarkozy. Mais on a donc un problème sur l'équilibre du couple, hein. C'est jamais facile, hein, ça tout au long de la Ve République, ça a jamais été facile, mais il manque de temps là, et donc le chef de la majorité, pour les députés, dès qu'ils sont élus, c'est le président, c'est pas le Premier ministre.
Et d'ailleurs il y a un point intéressant à souligner, c'est que Édouard Philippe quitte Matignon, il est limogé par Emmanuel Macron, au moment où il commence à devenir politiquement gênant pour Emmanuel Macron, avec sa popularité et sa gestion de la crise.
Emmanuel Rivière, on va avancer un petit peu et parler de ce que évoquait il y a quelques instants François-Xavier Bourmont, sur le fait qu'Emmanuel Macron, il commence, et on commence à voir des sondages, il commence à préparer le terrain pour la séquence électorale de 2022. Quel est l'état de l'image d'Emmanuel Macron dans l'opinion? On voit passer ces sondages en vue de 2022, qui sont évidemment à prendre avec une grande prudence aussi loin de l'échéance, où le président de la République est régulièrement crédité de 23-25% d'intention de vote au premier tour. Ce socle est-il solide?
C'est vraiment à prendre avec beaucoup de prudence. Là, on est dans une espèce de projection sur une élection dans laquelle les citoyens ne sont pas du tout rentrés. Je disais tout à l'heure qu'ils avaient eu beaucoup de mal à s'intéresser aux municipales, qui est pourtant l'élection à laquelle, de cœur, ils sont théoriquement le plus attachés. C'est assez nébuleux d'essayer de construire quelque chose sur la présidentielle. Et donc,
mais le président, lui, il y pense manifestement quand même, à la présidentielle.
Pas que lui, je crois, pas que lui, mais la position singulière qu'il occupe, c'est que là où il a donc ses audiences qui sont liées avec plus ou moins de succès, mais en tout cas qui sont là à la gravité de la situation, il n'y a pas beaucoup de personnalités qui semblent profiter du moment politique et du moment sanitaire et économique que l'on vit. Ça, c'est un autre point frappant du baromètre qu'on a publié, notre baromètre mensuel pour le Figaro Magazine. C'est-à-dire qu'aucune personnalité ne progresse. Il y a, ce qui confirme ce que disait Olivier Rocan tout à l'heure, il y a une chute de popularité de l'exécutif et de la plupart des membres du gouvernement. Aucune personnalité de l'opposition n'en profite quand il y a une crise sociale ou certains ténors émergent. Et donc c'est un peu ce vide politique qui est reflété dans les sondages, et ensuite ça va se mesurer à ceux qui ont les noyaux les plus forts, et en l'occurrence c'est Marine Le Pen qui vient en second. Mais tout ça peut changer très fortement, parce que l'état des rapports de force politique, de l'attachement des Français à tel ou tel parti n'a jamais été aussi liquide, pour ne pas dire gazeux. Et donc l'idée d'une cristallisation sur une autre personnalité au dernier moment est vraiment un scénario très très possible.
Et on est loin d'être dans une dynamique de campagne. Il y a, Olivier Rocan, et ça a été dit par le Premier ministre cet après-midi, une réflexion qui est engagée sur les élections départementales et régionales prévues à la fin de l'hiver, au mois de mars. En clair, on n'est pas sûr qu'elles auront lieu au moment prévu. Est-ce qu'il y a des leçons qui ont été tirées de ce qui s'est passé pour les municipales, par exemple? On est prudent, on ne sait pas s'il y aura les élections?
Écoutez, j'imagine qu'il y a des questionnements, et notamment sur la capacité à susciter un peu plus de participation. les élections départementales et régionales étant depuis quelques années, de ce point de vue, déjà inquiétantes. Donc l'idée est sans doute d'être dans des conditions suffisamment sûres pour que les électeurs aient envie de se déplacer. Bon, voilà, je pense qu'en effet, l'idée est celle-ci. Maintenant, le problème, c'est qu'à changer sans arrêt le calendrier électoral, à restreindre les libertés avec les meilleures raisons du monde, hein, les mois passent et on s'interroge sur la qualité de la vie démocratique. C'est-à-dire que tout ceci devient difficile. Hein, difficile. On va reporter de quelques mois des élections et puis plus tard, on est censé organiser une présidentielle, ne l'oublions pas. Donc... Bon, voilà, souhaitons que malgré tout le calendrier puisse être respecté, car c'est la base de la démocratie, c'est que le calendrier électoral soit à peu près fiable et sûr.
François-Xavier Bourmeau, c'est pas la première fois que l'Élysée évoque la possibilité d'un report des régionales. La dernière fois, selon les bruits qui étaient ressortis, c'était pour des raisons politiques, hein, parce que les présidents de région n'étaient pas tous forcément favorables à Emmanuel Macron. Ils avaient même des ambitions personnelles. Est-ce que l'exécutif est embêté fondamentalement par ce scrutin régional ?
Alors, ça a jamais été évoqué que pour ces raisons-là par l'Élysée, le fait d'avoir des concurrents. Oui. Non, mais effectivement, c'est la toile de fond. Il y a ce scrutin régional qui va se tenir dans moins d'un an maintenant, normalement. C'est la dernière haie électorale, c'est le dernier test grandeur nature de l'état du corps électoral avant la grande course présidentielle. Or, dans cette élection, il y a trois personnes qui vont particulièrement intéresser Emmanuel Macron. Il y a Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France, Valérie Pécresse en Île-de-France, et Laurent Wauquiez en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est de ces élections-là, Xavier Bertrand a déjà dit qu'il comptait s'appuyer dessus pour légitimer sa candidature à l'élection présidentielle. On voit qu'il y a un espace qui se dégage pour lui, et donc Emmanuel Macron le surveille de très près. Maintenant, il ne veut pas se retrouver dans la situation dans laquelle il a été plongé en mars à la veille du confinement, c'est-à-dire essayer de demander aux partis politiques un report des élections pour cause de crise sanitaire et se voir opposer à un front du refus total. Donc là, il est en train de mettre en place une sorte de commission indépendante, alors c'est vraiment en gestation, hein, qui déciderait, enfin qui le conseillerait, qui serait chargé de créer une sorte de consensus politique si un report des élections devait être décidé pour cause d'aggravation de la crise. Mais effectivement, ces élections-là, elles sont primordiales pour cet aspect-là, voir émerger des présidentielles ou pas, et puis pour une autre raison, qui est, c'est là où va se structurer ou pas la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron. Il peut pas retourner en 2022 candidat comme il était en 2017 parce que LREM, son parti, La République En Marche, la machine est cassée. Ça fonctionne plus, ça a jamais pris pendant 3 ans. Il y a aucune raison pour que ça se remette en route l'année et demie qui vient. Tant ce parti a pris du retard. C'est un jeune parti qui n'a pas réussi à s'implanter localement, qui n'a pas réussi à mettre en place des mécaniques d'un parti politique parce qu'il s'y est refusé dès le début. Et donc Emmanuel Macron essaye d'agglomérer autour de La République En Marche une majorité présidentielle avec le Modem, Agir, les partis qui seraient sur la même ligne que lui. Ça, c'est ce qu'il veut essayer de faire pour les élections régionales, c'est-à-dire présenter une liste unique, majorité qui défendent son projet, son programme, son bilan, et qui présentent des candidats uniques dans chacune des 13 régions.
Le problème, c'est que les listes sont à base départementale. Il faut quand même du monde, hein, pour faire une percée régionale.
Une fois qu'on a dit ça, l'architecture, l'idée générale, quand on plonge dans la construction, on tombe dans un chaos totalement invraisemblable.
Et en plus, les présidents de région que vous avez cités, s'ils restent en fonction, ils seront là, ils seront dans le paysage. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas partir du paysage si les élections sont reportées, bien au contraire.
Emmanuel Rivière, Emmanuel Rivière, vous nous disiez tout à l'heure que les Français n'avaient pas la tête à la présidentielle, ils l'ont à peine plus au régional.
C'est le risque d'ailleurs qui est une abstention. Ça dépendra évidemment des circonstances sanitaires, mais si les Français n'y pensent pas, effectivement, là, au sein de la majorité, je pense qu'on pense à la présidentielle, et on doit savoir, j'imagine, que essuyer une défaite électorale à un an de la présidentielle, c'est pas la meilleure manière de les engager. Alors, loin de moi l'idée de prêter des intentions qui sont liées à ça, mais c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire que l'échéance, si elle est maintenue, du printemps 2021 avec des régionales et des départementales, et un risque pour la majorité présidentielle d'y faire pâle figure, ce serait une mauvaise manière d'engager et d'enclencher une dynamique pour l'élection majeure qui aura lieu l'année suivante. Et donc, dans le débat qui aura lieu sur le fait de reporter ou de ne pas reporter, vont se mêler tous ces ingrédients, et c'est là où c'est un petit peu dangereux quand même d'imaginer reporter, au-delà principe démocratique qui est que bon, quand on commence à ne pas tenir les échéances des élections, c'est effectivement un tout petit peu compliqué. Il y a le soupçon de chercher à manipuler un scrutin. Donc on risque d'ouvrir un débat que je trouve d'ailleurs théoriquement dangereux dans l'ensemble. C'est-à-dire si on commence à débattre sur le fait de déplacer les élections, non pas pour des raisons sanitaires, mais pour des raisons qui seraient de préoccupation d'ordre politique, on risque de dénaturer un peu plus et de dévaluer un petit peu plus la valeur de ces scrutins aux yeux des Français.
Olivier Roucan, et tout le monde d'ailleurs, je vous pose la question à tous les trois, est-ce que la gestion de la pandémie, les résultats de la politique mise en place sera le grand sujet de la prochaine séquence électorale régional d'abord, présidentiel, est-ce que ça va se faire autour de ça?
Juste pour compléter sur le point précédent et je vous réponds rapidement, on peut pas faire n'importe quoi non plus, il y a une jurisprudence sur le report d'élection, donc 2 ans c'est beaucoup, si on reportait de 2 ans ce serait beaucoup. Et pour vous répondre, je pense que la gestion de la crise de la Covid sera dans toutes les têtes lors de la prochaine présidentielle, même si à l'évidence, on le sait bien, on ne peut pas trop prévoir le contexte spécifique désormais à chaque élection, mais je crois que ce sera présent, et il y a une grande question qui se pose, que je me pose moi, c'est quel sera l'état des lieux du dégagisme à ce moment-là, puisqu'on sait que c'est quand même, ça reste quand même présent dans l'état d'esprit de nombreux de nos concitoyens.
François-Xavier Bourmeau, sur cette gestion-là, sur en fait, d'ici, effectivement, il a raison, Emmanuel Rivière, il s'est donné un rendez-vous lui-même, Emmanuel Macron, au 1er décembre. Il joue déjà gros dans la perspective de 2022.
Oui, alors pas seulement sur la gestion de la crise du Covid, parce que ce quinquennat aura quand même été marqué par une succession totalement invraisemblable de crises. Il y aura aussi les gilets jaunes, la crise des gilets jaunes qui restera dans les esprits, la crise du Covid, et derrière vous avez tout un tas de mouvements sociaux qui ont aussi marqué ce quinquennat sur la réforme de la SNCF par exemple, et sur la réforme des retraites, si Emmanuel Macron la maintient jusqu'au bout, comme il a l'air décidé à le faire.
J'allais vous poser la question, François-Xavier Bourmeau, le président de la République, on voit bien qu'il essaye de se faire un petit peu protecteur. Sa visite à côté de Nice, il a reçu les syndicats de policiers aujourd'hui, après l'attaque d'un commissariat il y a quelques jours. C'est son but, il veut changer son image?
J'ai l'impression que son image, elle est déjà assez, très très installée, et qu'il aura beaucoup de mal à en changer d'ici la fin du quinquennat. C'est on l'a vu à l'œuvre. Il reçoit souvent les syndicats. Enfin, quand il y a des problèmes dans les professions, il avait reçu les syndicats hospitaliers aussi, il me semble. C'est son rôle traditionnel de chef de l'État. Il essaie de le jouer au maximum et d'en tirer bénéfice, c'est sûr. Mais de là à modifier son image, ça me semble un peu illusoire.
Emmanuel Rivière, le président, le Macron réformateur, on va le revoir. Est-ce qu'il va revenir avec des réformes, selon vous?
Ça marque de fabrique initiale. Donc c'est difficile pour Emmanuel Macron de se présenter devant le scrutin en 2022 en disant juste on a géré une crise et c'est pour ça qu'on n'a pas fait ce qu'on aurait dû faire. Nicolas Sarkozy avait un peu fait ça en 2012. Que c'est l'explication majeure de sa défaite de 2012, mais Emmanuel Macron, son rôle, c'était d'être une forme d'ailleurs de réponse au dégagisme et en offrant une autre manière de faire de la politique. Et bon, voilà, la crise sanitaire aura été un sujet majeur. J'aurais assez tenté de suivre François-Xavier en disant les crises se succèdent à un tel rythme que probablement ce sur quoi elle jouera 2022, c'est sur la prochaine crise dont on ignore la nature aussi, mais on est dans un contexte, alors évidemment la pandémie est assez déconnectée du contexte français, mais le contexte franco-français est très chrysogène, si je peux me permettre ce néologisme.
Olivier Roucan, le Macron réformateur, en quelques secondes, il va être obligé de s'effacer un petit peu.
Encore une fois, moi, je pense que ce qui a été dit est juste. C'est-à-dire, c'est indissociable de son image. Donc, il ne pourra se présenter que s'il promet, dans tous les cas, de continuer une œuvre réformatrice forte.
Merci beaucoup, Olivier Roucan. On a fini. Je suis désolé, on n'a plus le temps. François-Xavier Bourmeau, je suis désolé, je dois vous couper. Merci également à Emmanuel Rivière d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Simon Carteret à la coordination. Non, c'était Florence Ponce à la coordination et Simon Carteret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Laurent Philippot. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur notre site internet rfi.fr. Dans moins d'une minute, l'info revient sur RFI. Prenez soin de vous et des autres, et bonjour chez vous.